VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du lundi 28 novembre 2016 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
La MONUSCO a condamné l'attaque perpétrée hier par des Mai Mai Mazembe contre un camp de déplacés à Luanga, au Nord Kivu.
Reprise aujourd'hui à Abidjan du procès pour crimes contre l'humanité de Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire.
Au Mali, c'est mercredi que s'ouvre le procès pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires de l'ancien chef des putschistes Amadou Sanogo.
Les Cubains s'apprêtent à rendre un dernier hommage à leur ancien président Fidel Castro, observant un deuil national décrété jusqu'au 4 décembre.
En France, c'est le conservateur François Fillon qui a triomphé hier à la primaire de la droite.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La MONUSCO condamne l'attaque contre un camp de déplacés à Luanga, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. La mission onusienne dans ce pays a publié un communiqué après qu'un groupe de 50 Mai Mai Mazembe a lancé hier matin une attaque contre des familles de déplacés Hutus hébergées au camp de déplacés de Luanga, tuant plus d'une vingtaine et en blessant autant. La MONUSCO a dit qu'un détachement de sa force se trouvant dans les environs s'est déployé rapidement sur les lieux et a repoussé l'attaque des Mai Mai. Un des assaillants a été tué. Les casques bleus ont porté assistance aux blessés et procédé à leur évacuation médicale vers des structures sanitaires à Goma, lit-on dans le même communiqué.
Toujours en RDC, la présidentielle prévue cette année ne pourra pas se tenir avant avril 2018. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le ministre des Affaires étrangères du Congo en marge du sommet de la francophonie à Antananarivo. Raymo Tshibanga a par ailleurs estimé qu'il ne pouvait pas exclure qu'il y ait quelques tentatives de violence de la part de l'opposition autour du 20 décembre, date de la fin du mandat final du président Joseph Kabila, selon la Constitution.
En Côte d'Ivoire, le procès pour crimes contre l'humanité de l'ex-première dame Simone Gbagbo reprendra ce lundi à Abidjan avec ses avocats après tout. Une médiation du bâtonnier a permis le retour après une suspension de 2 semaines. Pour sa part, Mme Gbagbo refuse de comparaître depuis plusieurs séances, exigeant la comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro.
Au Mali, c'est mercredi que doit s'ouvrir à Sikasso, dans le sud du pays, le procès du chef de l'ex-junte malienne, Amadou Sanogo, pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires. Il est prêt pour son procès, malgré les violations de la loi, affirment ses avocats que cite l'AFP. Ce procès est lié à la découverte en 2013 des corps d'une vingtaine de bérets verts, des soldats d'élite ayant tenté un contre-coup d'État contre le régime de Sanogo.
En Ouganda, la police a arrêté dimanche un monarque local à la suite d'affrontements entre les forces de l'ordre et des militants séparatistes. Des violences qui ont fait 55 morts selon la police. Précision de Timothée Donangmaï.
Un porte-parole de la police ougandaise a fait état de 14 policiers et 41 militants tués lorsque la police a pris d'assaut le palais du roi Charles Wesley Mumbere dans la ville de Kasese. La garde du souverain a opposé une farouche résistance, entraînant des combats dans plusieurs quartiers de la ville. Elle ferait partie d'une milice liée à un mouvement prônant la création d'une république de Yira sur la zone frontalière entre l'ouest de l'Ouganda et une partie du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le président ougandais Yoweri Museveni avait appelé le roi Mumbere pour lui ordonner de démanteler sa garde, mais ce dernier a refusé, entraînant l'intervention des policiers, a indiqué le porte-parole de la police. Selon la même source, le souverain qui a été arrêté sera inculpé d'incitation à la violence et emmené à Kampala pour s'expliquer sur son rôle dans les violences de dimanche.
Fin hier à Madagascar du 16e sommet de la francophonie, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Antananarivo ont notamment appelé à une plus grande mobilisation dans la lutte contre le terrorisme. De la capitale malgache, les précisions de notre consoeur Ravaka Rakoto Malal du quotidien féminin Jeju.
Le sommet a été une occasion de réfléchir encore une fois sur la question de sécurité mondiale et de la lutte contre le terrorisme. Il a été discuté comment rendre plus efficaces les opérations de maintien de la paix, comment faire pour mutualiser les ressources, les renseignements, afin de toujours maintenir cette sécurité mondiale. À part cela, il a été convenu qu'il faut prioriser les femmes et les jeunes. Le meilleur moyen de doper la croissance concernant toujours les femmes et les filles. Il a été question de mariage précoce et de mariage forcé qui sont encore observés dans plusieurs pays. Et sur le plan économique, il a été dit qu'il faut améliorer l'environnement des affaires pour encourager les investisseurs, trouver les meilleures filières afin de doper le développement du pays.
L'Égypte a démenti dimanche des informations de la presse concernant une présence militaire en Syrie, quelques jours après le soutien exprimé par le président Abdel Fattah al-Sissi à l'armée de Damas. Le quotidien libanais As-Safir avait notamment affirmé dans son édition de jeudi qu'une unité de 18 pilotes de l'armée égyptienne se trouvait sur une base militaire de Hama, dans le centre de la Syrie, sans toutefois être en mesure de dire s'ils participaient au combat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Cubains s'apprêtent à rendre un dernier hommage à leur ancien président Fidel Castro, observant un deuil national décrété jusqu'au 4 décembre. Si la journée de dimanche s'est déroulée dans le calme à Cuba, cette semaine sera ponctuée de plusieurs cérémonies d'hommage et d'une procession de 4 jours pour honorer le père de la Révolution cubaine, mort vendredi soir. Les funérailles de Fidel Castro se dérouleront dimanche 4 décembre à Santiago de Cuba, dans l'Est, berceau de la Révolution.
Ici aux États-Unis, les dissidents et exilés cubains, eux, se mobilisent pour des manifestations d'envergure en soutien à la démocratie à Cuba. Timothée Donangmai a demandé au professeur Emilio Viano d'American University, ici à Washington, ce qui pourrait changer à La Havane avec la disparition du leader de la révolution cubaine, Fidel Castro.
Pas beaucoup, parce qu'il était retiré de la scène politique dans le pays il y a déjà plus de 10 ans. À l'instant, son propre frère, qui est maintenant le maître absolu de l'île. Le changement fondamental dans l'île ne se passera pas que jusqu'à la mort de son propre frère, c'est-à-dire quand il n'y aura plus de Castro comme leader suprême de l'île. Réellement, dans le sens pratique, je pense que c'est quelque chose qui est plus symbolique que réel.
Qu'en est-il des relations avec les États-Unis? Le président Obama a rétabli les relations diplomatiques, mais le président élu Donald Trump promet de revenir sur ces relations.
Il y a beaucoup de questions sur la continuation de la politique de Barack Obama, parce que c'est une politique fondée sur des décrets exécutifs du président. Il ne s'est pas appuyé par le Congrès. Et que Trump pourrait changer tant comme Obama les a introduits.
L'embargo américain contre Cuba reste en place et il n'y a que le Congrès qui peut lever cette mesure. Quelles sont les perspectives de ce côté?
Le Congrès est complètement républicain maintenant, avec un président républicain. Je pense qu'il n'y a aucune possibilité de changement de politique dans ce sens.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a dénoncé hier soir, sans en apporter la moindre preuve, ce qu'il a appelé une grave fraude électorale le 8 novembre, affirmant que des millions de gens avaient voté illégalement au scrutin qu'il a remporté face à Hillary Clinton. Jean-Roger Bion.
Dans un contexte de transition du pouvoir à la Maison-Blanche, une polémique a enflé tout au long du week-end. Une ancienne candidate indépendante à la présidentielle, l'écologiste Jill Stein, a décidé de réclamer des recomptages de voix dans les États du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Michigan. Ces trois États clés sont tombés dans l'escarcelle de Donald Trump et le camp Clinton a annoncé samedi qu'il participerait au nouveau décompte dans le Wisconsin, ce qui a fait sortir de ses gonds le bouillonnant milliardaire. En plus d'une victoire écrasante au sein du collège électoral, j'ai gagné le vote populaire, si vous déduisez les millions de gens qui ont voté illégalement, a accusé dans un tweet rageur le 45e président des États-Unis qui remplacera le 20 janvier le sortant Barack Obama à la Maison-Blanche. Ni lui ni ses conseillers n'ont apporté la moindre preuve de ces allégations et les observateurs électoraux le 8 novembre n'ont jamais fait état de fraude. Rappelons que le républicain a largement gagné la présidentielle américaine en empochant au scrutin universel indirect 290 grands électeurs contre 232 à sa rivale démocrate. En revanche, en termes de suffrage populaire, Hillary Clinton a recueilli 2,2 millions de voix de plus que Donald Trump.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco avec Nanit Talani.
En Algérie, une entreprise Emirassi, Emara Zayer Group, va développer une aciérie dans le nord du pays pour 1,6 milliard de dollars. Le site de production sera opérationnel dans 24 à 30 mois. Par an, il produira 1,5 million de tonnes de fer réduit direct et 1 million de tonnes d'acier sous forme de rails, de structures en acier et de tuyaux sans soudure. En Côte d'Ivoire, Total lance son terminal de gaz naturel liquéfié à Abidjan. L'infrastructure permettra de regazifier jusqu'à 3 millions de tonnes de ce gaz par an à partir de mi-2018. L'installation va nécessiter près de 100 millions de dollars d'investissement contre 200 millions de dollars évoqués début octobre par les autorités ivoiriennes. Toujours en Côte d'Ivoire, les besoins en financement des petites et moyennes entreprises sont estimés à 3574 milliards de francs CFA, selon une étude du cabinet S-Partners. Toutefois, en face, les engagements des banques et institutions de microfinance à leur endroit ne s'élèvent qu'à 1464 milliards de francs CFA, soit environ 40% des besoins en financement. Il y a donc 60% des besoins en financement qui sont encore non comblés. Enfin, le Cameroun réussit in extremis sa levée de fonds de 7 milliards de francs CFA sur le marché très sollicité de la Banque des États de l'Afrique centrale. Selon cette banque, le taux de couverture de la demande camerounaise a été juste de 100,6%, très loin des 300 à 500% auxquels les investisseurs de ce marché des titres ont souvent habitué les autorités camerounaises. De plus, les investisseurs ont proposé des financements à un taux d'intérêt moyen de 2,5% contre au plus 2% par le passé.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
On démarre par ce grand week-end de course au Gabon avec la 4e édition du marathon.
Oui, marathon du Gabon à Libreville, bien sûr, et pas de surprise, c'est un Kenyan qui a remporté la course, Samson Bungay, qui s'est imposé sur une distance de 42 km 195 en 2h21 minutes et 15 secondes. Une belle performance sous une très forte chaleur. Il a devancé son compatriote Peter Koury, vainqueur déjà en 2013.
On passe au football avec la fin de la 3e journée de la phase de poule de la CAN féminine au Cameroun.
On connaît les affiches des demi-finales de la compétition et ce sera Nigeria, Afrique du Sud et Cameroun, Ghana. Les Maliennes ont donc manqué leur pari de poursuivre l'aventure jusqu'au dernier carré. Le Mali s'est incliné logiquement 3-1 face au Ghana. Dans ce groupe, le Nigeria a balayé le Kenya 4-0.
Autre compétition au Togo, le début du tournoi de l'UEMOA qui rassemble 8 pays ouest-africains.
Effectivement Idrissa, c'est la 7e édition cette année et les premiers résultats sont tombés. En ouverture dans le groupe A, le Mali a battu le Togo 1-0, but d'Ibrahim Koné. Dans l'autre rencontre de ce groupe, la Côte d'Ivoire et le Niger ont fait jeu égal 0-0. Hier, dans la poule B, le Sénégal et la Guinée-Bissau ont réussi leur entrée en battant respectivement le Burkina Faso et le Bénin sur le même score 1-0. Le groupe A revient aujourd'hui pour sa deuxième sortie. Et en première heure, le Mali pour une possible qualification pour la finale va en découdre avec le Niger. Le Togo, lui, va essayer de se reprendre face à la Côte d'Ivoire.
Direction la Côte d'Ivoire, Élisée, pour faire le point de la deuxième journée du championnat.
Oui, et l'Africa Sport d'Abidjan est seul leader au classement en attendant la dernière affiche de cette deuxième journée entre le WAC et la FAD. Les Aiglons, vainqueurs de Tengele d'Odiene 1-0, comptent 6 points. La SEC, après avoir démarré fort ce championnat a été freiné par FC Moussou 0-0. Le champion en titre, l'AS Standard, a enregistré un second revers, cette fois face aux militaires de la SOA 1-0.
Tennis et finale de la Coupe Davis remportée par l'Argentine face à la Croatie.
Une victoire acquise à Zagreb 3-7-2 à l'issue du dernier simple remporté contre toute attente par Federico Delbonis. Et puis, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA, le championnat professionnel nord-américain de basketball.
Cleveland-Philadelphia 112-108, Denver-Phoenix 120-114, Sacramento-Brooklyn Nets 122-105, Milwaukee-Orlando 104-96, Los Angeles-Indiana 70-91, New Orleans-Dallas 81-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés seront à la barre après-demain, mercredi, dans le cadre du procès relatif à l'affaire des 21 bérets rouges disparus. Ce procès suscite beaucoup d'intérêt car il est le premier jugement d'un groupe de putschistes dans le pays. Amadou Aya Sanogo et les autres prévenus sont accusés d'enlèvement, assassinat et complicité de Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
S'il y a un sujet qui alimente les débats à Bamako, c'est l'ouverture ce mercredi 30 novembre 2016 du procès de Amadou Aya Sanogo et co-accusé. Boukari Daou, journaliste.
Il s'agit en l'occurrence de l'enlèvement des militaires appelés bérets rouges, 21 éléments qui ont été extraits de la prison pour aller à une destination inconnue. Après des enquêtes, il a été découvert qu'ils sont dans un charnier. Donc ils ont été abattus de sang-froid et enterrés dans un charnier.
Depuis le début de l'instruction du dossier, les avocats de Amadou Aya ont dénoncé la procédure. À la veille du procès, ils ont demandé un report en vain. Maître Tchessoulo Konare, avocat de Amadou Aya Sanogo.
Nous allons nous battre, défendre le dossier, c'est tout. Je n'aime pas dire comme les autres avocats, dire que le dossier est vide, ceci, cela, c'est pas mon genre. C'est ce que je veux me battre. Maintenant, on fera voir à la cour, c'est les lois qui ont été violées, c'est à eux d'apprécier, parce que la cour est composée de 3 magistrats professionnels et de 4 assesseurs. C'est à eux de voir si nous avons raison ou pas. Sinon, nous allons présenter effectivement nos moyens de défense qui doivent être souvent présentés avant tout débat. Donc, si ça aboutit, le procès, c'est un autre jour. Mais si ça n'aboutit pas, on va continuer.
Les Bamakois veulent un procès exemplaire, qui ne sera pas un jugement politique, Noum Togo politicien.
Une justice pour le peuple malien, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on peut égorger, supposer égorger les gens, où on peut prendre les gens, montrer les gens à la télé, aller après qu'on ramasse leur corps, ou enlever des gens à la maison, souvent des gens qui n'ont rien fait des bérets rouges, et qu'on retrouve leur corps dans les trous. Nous pensons réellement qu'ils doivent avoir justice. On a vu des gens tués comme des chiens. On a vu des gens tués comme des moutons.
La presse participera à ces procès, mais il n'y aura aucune retransmission sur les radios privées, encore moins les télévisions. Issa Kaba, du groupe Renouveau TV.
Vivement le 30 novembre, parce que je crois que Amadou Aya Sanogo et ses avocats auront beaucoup de choses à dire. Et j'aurais quand même préféré que ce soit retransmis comme ils l'ont demandé à la télé, pour que tous les Maliens soient témoins de ce qui va se dire et de ce qui va se faire.
Le bureau Amnesty International Mali souhaite voir un procès aboutir avec des résultats réels. Salim Traoré, directeur d'Amnesty International Mali.
D'abord, c'est un droit d'être jugé quand on est arrêté, mais c'est aussi un droit d'avoir justice quand on est agressé. Donc j'attends de ce procès que ce ne soit pas du théâtre. J'attends de ce procès que le parquet, en tout cas, puisse être à la hauteur, que ce ne soit pas simplement un geste pour montrer à l'opinion internationale que nous voulons respecter les droits humains, mais je voudrais que ce soit sincèrement un procès rendu équitablement, aussi bien dans l'intérêt des victimes que dans l'intérêt des accusés.
À Sikasso, le procès se déroulera dans la salle Lamissa Bangali. 240 personnes ont été prévues. Aucune personne, selon le parquet, n'aura accès à la salle d'audience sans être accréditée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Tchad, les cas de malnutrition qui affectent les enfants dans les camps de réfugiés soudanais inquiètent les organisations humanitaires. Notre correspondant André Kotmadingar s'est rendu dans les camps de Djabal et Goza Amir. Son reportage.
Les structures sanitaires des camps de Djabal et de Gouzamir dans la région du Sila sont débordées par des cas de malnutrition. Bien que le personnel soignant sensibilise tous les jours la population pour le bien-être des enfants, les parents se préoccupent beaucoup plus de la récolte des champs que le suivi régulier de soins de santé de leur progéniture. Selon le superviseur du centre de santé de Djabal, Barnabas Hamza, la malnutrition est causée par plusieurs facteurs, parmi lesquels le manque d'une alimentation équilibrée.
S'il y a manque des apports en calories dans l'alimentation de l'enfant, cela peut entraîner la malnutrition chez l'enfant. D'autres maladies également peuvent entraîner la malnutrition. Nous avons des tableaux ici qui nous montrent comment l'enfant doit avoir tous ses aliments pour avoir d'énergie, pour subvenir à ses besoins. S'il y a manquement de ces produits, l'enfant est appelé à entrer dans la malnutrition.
Réaction du directeur adjoint du PAM, bureau du Tchad, Issa Sanogo.
Les raisons de la malnutrition doivent être creusées un peu plus pour bien situer la raison. Une des raisons, quand on sort en période de post-soudure et qu'on entre en période de récolte, il se peut qu'il y ait des cas d'abandon, de screening au niveau des centres de santé qui peuvent également avoir un impact sur la hausse de la malnutrition. Il se peut que les raisons soient difficiles à identifier et il est bon qu'on sache ce qui se passe.
C'est dans cette condition peu enviable dans les camps, surtout pour les enfants de 0 à 59 mois, que l'OSR et ses partenaires entendent revoir en baisse l'assistance alimentaire. Ce qui veut dire qu'en 2017, l'appui sera beaucoup plus orienté dans les initiatives personnelles de réfugiés pour leur prise en charge effective et non continuer à les donner à manger. Car, selon les donateurs, assister les réfugiés pendant 13 ans, c'est trop. Josué Antonio Canandula est le représentant du SR au Tchad.
Le coupon, ça veut dire, ça nous permet de donner un peu plus que au cas où nous devons prendre en charge pour le transport et toute la distribution. Ça donne l'opportunité à une autre famille d'opter ne pas acheter la nourriture, mais acheter d'autres choses avec le même argent. Que les gens arrêtent d'être réfugiés, ils repartent dans leur pays.
Dans les deux camps, le pourcentage des enfants malnutris des deux derniers mois est têtu. Environ 600% des enfants malnutris aigus modérés et 400% des enfants malnutris aigus sévères sont enregistrés. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, décédé vendredi soir à l'âge de 90 ans, avait placé l'Afrique, selon le professeur Jean-Emmanuel Pondy, au bord de la Troisième Guerre mondiale. C'est ce qu'a dit à John Linden, l'ancien directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun.
Comme toute personne, avec une certaine tristesse, mais pas du tout surpris, puisque depuis un certain nombre d'années, nous savons tous que c'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé et qui a dû renoncer à sa charge de président.
Qu'est-ce que la mort de Fidel Castro représente pour l'idéologie qu'il véhiculait ?
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique, et ce depuis 1959. C'est quelqu'un qui s'est opposé à la vision idéologique d'un pays qui était à moins de 200 kilomètres de ses côtes et qui a tenu bon, puisqu'il a quand même vu le passage de 11 présidents américains qui chacun aurait souhaité le voir partir de son poste. Donc sa mort représente quand même la fin d'une vie de résistance, d'une vie d'engagement avec des principes qui n'ont pas plu à tout le monde, mais qui quand même ont perduré plusieurs décennies.
Qu'est-ce qu'on peut dire des rapports entre l'Afrique et Cuba et donc Castro ?
Bon, c'était des rapports, je dirais, de principes et surtout idéologiques. Fidel Castro soutenait toutes les oppositions par rapport aux pays capitalistes, aux pays qu'il considérait comme bourgeois. Et par conséquent, il n'était pas l'ami de ce camp-là. Mais il a quand même investi beaucoup, et surtout en 1974, au moment où le Mozambique et l'Angola accèdent à l'indépendance, il envoie quand même 30 000 troupes dans un pays et 30 000 dans l'autre, ce qui fait quand même 60 000 troupes au cœur de l'Afrique, ce qui a failli embraser le continent. Au cas où les troupes sud-africaines venaient dans ce périmètre, on aurait eu certainement le début d'une troisième guerre mondiale à base idéologique. Heureusement, ça ne s'est pas dénoué de cette manière, mais la fermeté et l'engagement militaire et également idéologique de Fidel Castro pour les pays dont je viens de parler étaient sans faille. Mais on oublie aussi que, d'autre part, il a soutenu mordicus la lutte anti-apartheid. Et la preuve de cela, c'est qu'à sa sortie de prison, Nelson Rolihlahla Mandela a tenu à lui rendre hommage, tout comme il a tenu à rendre hommage à Muammar al-Kadhafi, en disant que dans les heures les plus noires, les plus sombres, les plus difficiles, ce sont ces deux-là qui ont toujours été à leur côté. Ça peut ne pas plaire à l'Occident, mais ce sont des faits historiques qu'ils ont démontrés et qui sont retraçables.
Le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Ici aux États-Unis, la ville de Miami, où vivent de nombreux Cubains américains, est le bastion du mouvement anticastriste en Amérique. Beaucoup sont descendus dans la rue pour célébrer la mort de Fidel Castro. Et pour faire le point, Timothée de Langmaille a joint à Miami même Maître Philippe Brotus, avocat et homme politique de l'État de Floride.
Quand même, en démocratie, c'est normal qu'on puisse faire la manifestation pour faire passer un message. Il y a beaucoup de gens ici qui sont les fils des anciens anticastristes qui ont pris l'exil dès l'ascension de Castro, vous voir. C'est normal qu'ici, nous soyons contre Castro. Mais les jeunes Cubains sont un peu plus tolérants. Les anciens sont réellement durs envers Castro et c'est eux qui manifestent avec ses enfants, leurs enfants qui peut-être partagent la même opinion. Mais en général, dans d'autres quartiers, dans d'autres coins de la Floride, il y en a beaucoup plus de sympathie pour Castro, particulièrement les non-cubains, ceux qui ont pu voir les œuvres de Castro à travers les Caraïbes, l'Afrique et tout ça, l'Éthiopie, l'Angola et tout ça. Mais quand même, ce qu'on lui reproche, c'est le fait qu'il a passé plus de 50 ans au pouvoir à Cuba, même s'il a bénéficié le pays, mais quand même, il y a un droit au suffrage universel, une personne, un vote.
Quel peut être l'impact de ce mouvement des anticastristes?
Bon, je pense avec l'ascension de Donald Trump à la présidence du pays, ils ont, disons, une sorte de force. Mais je pense que c'est temporaire, parce que les forces internationales, les forces du marché demandent que Cuba soit ouvert, au marché américain soit ouvert, au marché mondial. Maintenant, la politique, parfois, peut être un casse-pied pour l'économie, mais l'économie, surtout, prend le dessus. Je pense que dans un ou deux ans, ils réaliseront que c'est important que Cuba soit ouvert, pour même bénéficier des grandes compagnies américaines.
Sous le président Barack Obama, les bateaux de croisière américains et les avions de ligne américains ont commencé à desservir Cuba. Quel est l'impact de ce changement à Miami?
Oh, c'est énorme, c'est extraordinaire, parce que les opportunités économiques que ça présente pour les Cubains, pour les autres Américains, les autres Antillais qui habitent ici, qui ont des familles à Cuba, en particulier les Haïtiens. Il y en a beaucoup d'Haïtiens à Cuba qui ont été là-bas pour faire partie de la coupure de canne à sucre. Alors, c'est une ouverture énorme. Et les gens peuvent maintenant faire des transactions financières avec Cuba. Je pense que c'est très bien. Toutes les fois qu'on ouvre un marché nouveau à quel que soit le système, ça bénéficie le système. Et ça bénéficie aussi l'autre partie. Mais quand même, comme Cuba est différent, après 50 ans de communisme ou bien de socialisme, ce ne sera pas un pays capitaliste comme les autres. Mais quand même, il y aura beaucoup d'opportunités. Je pense que c'est très important pour nous ici en Floride, particulièrement au sud de la Floride.
Maître Philippe Brotus, avocat et homme politique de l'État de Floride.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.